vaste sujet dans la tête au carré aujourd'hui, Mathieu Vidard.
Et oui, il y a de la place pour tout le monde dans notre cœur. On va s'aimer à plusieurs aujourd'hui.
Super.
Et parler du polyamour. Youpi. Allez, à tout à l'heure.
Waouh, c'est chaud.
Liberté amoureuse totale, transparence et confiance. Et si le polyamour était l'avenir du couple, en étant capable d'aimer donc plusieurs personnes en même temps, les déçus du couple traditionnel tentent parfois donc de nouvelles règles du jeu, en bousculant donc les schémas sur la fidélité et la jalousie. Pour autant, le polyamour est-il une véritable alternative pour penser autrement les relations sentimentales? Et cette liberté de façade est-elle si facile à accepter? Eh bien, c'est le dossier aujourd'hui de La Tête au Carré avec mes invités qui vont répondre à vos messages et certainement à vos témoignages sur franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science, aujourd'hui un tsunami géant sur la planète Mars.
Oui, et enfin une preuve irréfutable qu'il y a environ 3 milliards d'années, un océan recouvrait l'hémisphère nord de la planète rouge. On imagine des vagues de 300 mètres de haut avec le géomorphologue François Cottard.
Et puis comme tous les mercredis, nous retrouverons la science en grand format avec nos confrères de France 5 pour un doc consacré aujourd'hui à la grande aventure archéologique d'Encore. Stéphanie Texier réalise cette tête au carré préparée par Lucie Sarfati avec Thomas Lehété.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et donc le polyamour au cœur de notre dossier dans quelques instants. Et je salue mes invités, les sexologues Magali Crozet-Callisto et Philippe Bruno. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Magali Crozet-Callisto, est-ce qu'on peut vraiment être amoureux de plusieurs personnes à la fois? On va déjà à la conclusion de l'émission, hein, quasiment.
Alors c'est toute une grande question qui traverse la société depuis très longtemps. Et on va essayer de creuser un petit peu ça ensemble.
Mais ça fonctionne quand même ou pas alors?
Alors ça fonctionne, ça peut fonctionner en tout cas. Voilà.
Est-ce que c'est un phénomène marginal, Philippe Bredon, encore ou pas?
Oh, c'est encore un phénomène marginal si on parle en termes de fréquence, mais moi je crois que ça situe bien ce qui se passe depuis la fin du mariage traditionnel et de l'union indéflectible. Eh bien, on va trouver beaucoup de formes du couple. Celle-là en est une parmi d'autres.
Eh bien, on va en discuter ensemble dans quelques minutes avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent. Deux vagues de plusieurs centaines de mètres de haut ont traversé l'océan qui recouvrait l'hémisphère nord de la planète Mars. Il y a 3,5 milliards d'années, un tsunami d'une ampleur et d'une rapidité bien supérieures à ceux observés sur Terre. Et c'est donc aujourd'hui à la une de la science. François Cottard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire Géosciences à Paris-Sud et c'est vous qui avez coordonné ces recherches. Et puis à vos côtés, Philippe Hénarejos. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Le rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. François Cottard, comment fait-on d'abord pour dénicher des tsunamis vieux donc de plus de 3 milliards d'années et qui, plus est, à la surface de la planète Mars?
Eh bien, nous avons mené un véritable travail de détective en fait. Mm-hmm. Nous avons utilisé les images haute résolution que nous avons actuellement, venant de l'ESA, de l'Agence Spatiale Européenne et de la NASA. Ce sont des images couplées avec des données altimétriques, haute résolution, donnant des informations sur la topographie. Et nous avons donc essayé de comprendre les formations que nous observions pour les interpréter ensuite, et essayer de remonter dans le temps pour savoir ce qui se passait en temps réel.
Ce sont des images anciennes en l'occurrence?
En fait, ce sont des images qui existent, celles que l'on a utilisées à haute résolution, elles existent depuis à peu près une dizaine d'années. Et en fait, on a fait cette découverte conjointement avec une équipe américaine aussi, mm-hmm. il y a seulement un an.
Alors, quelles sont les traces caractéristiques que laisse un tsunami sur la planète Mars alors?
Alors, tout à fait. En fait, c'est tout à fait par hasard. Nous sommes mis à travailler sur cette région qui se situe au niveau de la limite entre le haut plateau cratérisé de l'hémisphère sud et les basses plaines de l'hémisphère nord. Et ce sont des régions qui présentent des formations très très bizarres que je n'avais pas réussi à interpréter il y a 30 ans. Et là, avec l'imagerie haute résolution, on a pu enfin avoir donc une interprétation avec la formation de ces des dépôts lobés qui ont tendance à remonter des pentes sur près de 100 mètres de dénivelé.
Et le tsunami, c'est la seule explication pour que de la matière remonte les pentes, alors, c'est ça?
Oui, et par rapport à ce que l'on connaît sur Terre, non, puisque c'est un travail de planétologie comparée. En effet, les seules possibilités qui nous sont offertes comme interprétation, ce sont des formations qui se mettent en place par des phénomènes relativement violents, cataclysmiques, qui sont donc des tsunamis qui ont suffisamment d'énergie et d'inertie pour remonter des pentes sur plusieurs dizaines de mètres de hauteur.
Alors Philippe, qui dit tsunami dit océan, ça aussi c'est assez nouveau à cette période de l'histoire de Mars.
Oui, parce que en fait, la datation qui a été faite par l'équipe de chercheurs, c'est entre 3,5 et 3 milliards d'années. Et à cette époque-là, d'après la connaissance qu'on a de Mars, du passé de Mars, déjà la planète commençait à avoir perdu son atmosphère, il n'y avait plus une pression énorme, il faisait froid. Donc c'était pas terrible pour qu'il y ait de l'eau à l'état liquide un peu partout sur Mars. Il y en avait eu avant, il y avait eu des... On voit des d'anciens fleuves, etc. Mais cette période-là était déjà sur le déclin. Donc c'est un peu la surprise là. Pour qu'il y ait des tsunamis, il faut qu'il y ait un phénomène qui le crée. Alors au passage, on ne l'a pas dit, mais c'est la chute d'une grosse météorite dans un océan. Ça fait splatch, en gros, vous voyez ouais. Très bien. Et puis il y a les vagues qui partent de manière concentrique, qui vont arriver jusqu'à des côtes. Mais effectivement, pour faire un splatch, il faut qu'il y ait de l'eau.
Il y a eu deux splatchs en l'occurrence, sur la vague et sur le fond océanique.
Alors il y a un phénomène de rebond. Quand le caillou tombe, ça fait splatch, ça écarte l'eau, si vous voulez. Mais au moment après l'eau, il y a un creux. Mmh. Alors elle revient. De nouveau, il y a une espèce de rebond, elle rebouche le trou et ça fait une deuxième vague. Il y a deux vagues successives qui se sont comme ça suivies pour aller dévaster ce qu'était le rivage de cet ancien océan.
François Cottard, est-ce que vous avez trouvé le cratère de cette météorite qui est tombée dans l'eau ?
Oui, en fait, pour le retrouver, en fait, on a travaillé pendant à peu près 2 années. Hein, c'est un travail d'équipe. Hein, on a travaillé avec des géologues, donc Antoine Séjourné, Sylvain Boulay de l'équipe dans mon laboratoire, avec un spécialiste numéricien qui s'est généré des tsunamis terrestres, Karim Kalfoun à Clermont-Ferrand, et on s'est entouré de spécialistes des océans sur Mars, comme Steve Clifford à Houston, et aussi avec une étudiante de l'université de Pescara. Donc c'est tout un travail d'équipe de longue haleine, qui nous a permis de retrouver donc les cratères d'impact qui ont été à l'origine de ces tsunamis.
Ouais. Mais alors justement, François Cottard, ça remet complètement en question les connaissances qu'on avait sur la présence d'océans à cette période-là sur la planète Mars ou pas ? Alors, c'est-à-dire que là, maintenant, il faut admettre qu'il y avait vraiment des océans ?
Oui, tout à fait. En fait, l'idée communément admise par la plupart des chercheurs, c'est qu'il y avait un océan sur Mars il y a environ 3,8 milliards d'années. Il y avait donc une atmosphère relativement dense, des réseaux ramifiés, de l'eau qui s'écoulait tranquillement à la surface de Mars et un océan qui occupait un bon tiers de la surface de Mars dans l'hémisphère nord de cette planète. Et puis ensuite, cette atmosphère s'est raréfiée, s'est échappée, et donc il n'y avait plus d'océan. Or là, nous montrons, par la présence de ces dépôts de tsunamis, formés à partir de cratères dans un océan dans l'hémisphère nord, qu'il y avait bel et bien un océan il y a 3,5-3 milliards d'années.
Quelles sont les hypothèses, Philippe, pour que l'eau soit revenue ou alors soit pas vraiment partie ?
Alors, il faudrait peut-être le demander à François Cottard, mais a priori, c'est une époque quand même de transition. Donc, je vous disais tout à l'heure, l'atmosphère de Mars commençait à se raréfier, mais il se trouvait qu'il y avait encore de l'eau, au moins sous forme de glace, dans certaines régions de Mars, et il était possible qu'une certaine, une certaine forme de volcanisme ne soit pas encore tout à fait éteint. Donc, il y a eu à ce moment-là ce que les spécialistes appellent sur Mars des grosses traces, des vallées de débâcle. Ce sont des vallées énormes, mais ça n'a rien à voir avec des fleuves qui creusent tranquillement leur sillon. Tout d'un coup, vous avez des poches de glace qui se liquéfient et qui emportent tout, comme un peu quand, sur Terre, un volcan se met en éruption et que la glace fond tout autour, il y a des coulées de boue terribles qui dévastent tout. Donc on est à cette époque-là, alors il est possible qu'il y ait eu localement des régions volcaniques qui se soient un peu échauffées et qu'une bonne partie de cette eau ait fait un océan entier ou partiel dans l'hémisphère nord à la place de l'ancien antique océan qui était certainement là, mais dont on n'a pas la trace.
François Cottard, c'est vos recherches maintenant, essayer de comprendre comment est arrivée cette eau ?
Oui, entièrement. C'est d'une part comprendre pourquoi on avait un océan à cette période-là. Donc soit un climat qu'on n'a pas forcément bien compris dans son évolution, soit en effet des réservoirs d'eau relativement importants en profondeur. Et puis étudier des tsunamis sur Mars, c'est aussi mieux comprendre leur dynamique par rapport à ce que l'on connaît sur Terre. Donc avec Frank Laving de Meudon, qui est un spécialiste des tsunamis terrestres, on essaye de comprendre les spécificités des tsunamis martiens par rapport à ce que l'on connaît relativement bien sur Terre.
Qu'est-ce qu'on sait justement de la propagation des vagues, alors de ce tsunami géant martien ?
Bien, à partir de la connaissance que l'on a donc de ces dépôts sur Mars, on a pu donc générer différentes simulations. Et on sait que, d'après les simulations numériques, il a fallu quand même près d'une année quand même pour en faire plusieurs dizaines, hein, qu'on avait des vagues qui avaient à peu près une hauteur initiale de 300 mètres, qui se sont propagées à plus de 1000 km de distance du cratère initial, à la vitesse d'un TGV, je dirais, hein, 200 à 300 km/h à peu près. Et les vagues sont arrivées sur les côtes 2 heures après, à peu près, hein, donc avec une hauteur de 75 mètres.
Combien de temps après, vous avez dit ?
Un peu plus de 2 heures.
À 2 heures, d'accord.
2 heures, oui. Oui. Donc vous n'avez pas beaucoup de temps pour dire au revoir à votre famille quand vous voyez le cratère.
Bon, ça va, on est rassuré.
La météorite arrivée
à l'époque,
sur Mars.
Il ne se passait pas grand-chose. 300 mètres d'eau, quand même, pour ces vagues.
C'était peut-être à l'époque où il y avait encore des martiens.
Ah. Oh non, Philippe, franchement. Déjà qu'on a un océan maintenant, si en plus il faut y mettre des martiens.
Est-ce que la gravité agit sur les tsunamis sur Mars d'une manière différente que sur Terre ?
Oui, alors, le modèle qui a été mis au point à Clermont-Ferrand est un modèle qui a été donc légèrement modifié pour tenir compte de la faible gravité martienne. Mmh. Et donc la faible gravité va notamment influencer l'épaisseur des dépôts dans sa phase terminale. Donc quand les vagues arrivent sur les côtes, elles vont emporter des sédiments relativement fins, et le fait d'avoir une faible gravité sur Mars, ces matériaux seront d'autant plus facilement transportés, mis en suspension, et ça va générer des dépôts relativement épais, bien plus épais que ceux qu'on observe dans les tsunamis terrestres, ce qui est le cas d'ailleurs sur Mars. Ces dépôts de tsunamis sur Mars font entre 10 et 20 mètres d'épaisseur.
Bon, ben voilà encore des nouveautés hein, dans les connaissances autour de la planète Mars et à l'occasion donc de cette publication autour de ce tsunami géant. Merci beaucoup François Cottard, je signale ce livre, La planète Mars, histoire d'un autre monde. C'est une nouvelle édition qui est sortie il y a quelques temps déjà aux éditions Belin avec François Forget et Philippe Lognonnet et Philippe Hénarejos. Merci beaucoup à vous, à très bientôt et Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des chercheurs américains ont réussi à reproduire un cycle menstruel in vitro. Et pour ce faire, ils ont simulé un organe sexuel féminin à partir de tissus humains en y incorporant un ovaire fonctionnel de souris. Le système baptisé Evatar a ensuite été stimulé avec des hormones pour enclencher le cycle hormonal. 14 jours plus tard, un ovule était créé. Les trompes de Fallope et le reste de l'organe se sont alors comportés comme à l'intérieur d'un vrai organisme vivant. Et grâce à cette petite prouesse technique, les chercheurs espèrent pouvoir tester les effets de médicaments sur l'appareil reproducteur. L'équipe espère pouvoir renouveler l'expérience, mais cette fois-ci en l'amimant avec le sexe masculin. Les souris nous permettent de dater l'apparition de la sédentarité chez l'homme. Des chercheurs américains se sont intéressés aux Natoufiens, une communauté qui vivait entre 12 500 et 10 000 avant Jésus-Christ au Proche-Orient. Ils ont déterminé que la présence de souris domestiques du type de celles qu'on trouve dans nos garde-manger indique le début de la sédentarité. La première trace de cette souris date ainsi de 15 000 ans avant Jésus-Christ. Pendant les 5 000 ans qui suivent, leur répartition oscille, ce qui indiquerait une alternance justement entre sédentarité et nomadisme. Et puis des mosaïques datant de l'époque romaine ont été découvertes à Uzès dans le Gard. C'est la première fois que l'on trouve un témoin d'Ulcétia, l'ancienne ville romaine qui se trouvait là. Et c'est en vue de la construction d'un internat que les fouilles préventives ont été décidées sur ce site. Les archéologues ne s'attendaient pas à tomber sur de tels vestiges, des mosaïques impressionnantes recouvrant une surface de 100 mètres carrés dans ce que les archéologues pensent être les restes d'un ancien édifice public. Certaines présentent des animaux comme l'aigle ou la biche, vieux d'environ 2000 ans. L'ensemble a été préservé de l'épreuve du temps et les couleurs se distinguent encore parfaitement. D'ailleurs, des photos dévoilées par l'INRAP sont visibles sur la page Facebook de la Tête au Carré. Allez, nous parlons du polyamour dans un instant. C'est le dossier de l'émission avec vos questions et vos témoignages sur franceinter.fr. With a capital G, ball in the beat. Status Chris Paul or John Wall in the league. Grab a mic till the knuckles will bleed. Cause I believe the potent and I'm potent. Have you geek like speed? If rationale is natural, I will weave. It's all edges and peace. Setting press free on a permanent speed. I'm in the world where my princess is player. And she feeling my Vader. And my lore grows greater and greater. Pim trails dropping poisonous vapors. Have you shaking like Gator? Been trill, nigga, process to data. Blu-ray wave, follow up beta. I DVR for later. Cop a monster with a G to my waiter. You can't define. It's X, Y, Z, Z, it's a generational elitist. Have you cheating virtual think pieces? See these written words from medical science. Brains defiant, thoughts heavy, baby, they're a major appliance. Leave a tan when chopping to flyness. Do a giant, dude's nice, he tight screwed in with some pliers. Cool with some buyers, yeah, nigga, cool with some growers. Never know tattletales, only I don't know us. Yeah, show me generation, show us what you gon' show us. So listen, mommy, see, we could collude with a boy. Mouthpiece like coins with a jubilant noise. Dude's rude and as useless as coins. Shoot them, boys.
boys. Versed and rehearsing the soothing of loins. Talk to Joey Earl, Kendrick Cole. Gatekeepers afloat. They are extensions of instinctual soul. It's the highest of commodity grade, and you can get it today. One hit and reading pages of Poe. Telly is low, cuddle bunny ready to go. Day of the dead,
bury all the zombies instead.
And it's just your aftermath, bust a cut in your dreads.
Bruce Lee and niggas, Ryo niggas, UFC. Smoke trio niggas, sizzle out your USB.
Surge pricing on these Ubers, I'ma give me a cab.
Now where'd your Obi at?
Arriving on impeccable grass. I be in NYC waiting for that law to pass.
Cash it, been waiting for a Jets title since last. Such a Todd Bowles, gangrene on that ass.
Magic Mike on the mic, David Blaine Douglas Henning.
In the church of Busta Rhymes, it's my sermon you get. Horizontal spitting, I'm the exorcist of your witness. Don't interrupt me, nigga. Sorry, that's a sin unforgiven. Like how we be skipping on bees like cooking crack in the kitchen.
Wait, just start the package, dry it, bag up the wet. This mad city's not a game, easy, quiet, on set. Fight,
student of the past, trailblazing the day. Not acknowledging a threat, I swept up in a phase. We still the highest of commodity grades. And you can get it, get it, get it, get it, get it today.
Pour moi, c'est naturel, et ce qui est naturel, c'est que chacun ait sa vie, et que chacun respecte l'intimité et la vie de l'autre, et qu'au bout du compte, le temps qu'on passe ensemble, c'est le temps qu'on a choisi de passer ensemble. Donc, à un moment donné, c'est ça aussi l'amour, c'est une forme d'élection, et c'est, moi, je me sens bien plus valorisée par le fait que mon ami ait le choix et qu'il ait l'occasion régulièrement de satisfaire son désir pour d'autres, etc. Et que pour autant, il revienne. Il revient. Donc, voilà, pour moi, en tout cas au niveau du désir, pour moi, c'est nettement plus intéressant et je me sens choisi. Bien plus que si décidé au moment T que je suis sa femme et que, etc., il ne posera plus les yeux et les mains que sur moi. Et que voilà, et que 10 ans plus tard, le pauvre, il s'emmerde à mourir. Et il reste là parce qu'il me l'a promis.
Voilà, extrait d'un documentaire, L'amour, un peu beaucoup à la folie, diffusé en février 2010 sur France 5 et réalisé par Karine Dufour. Et cette question au centre de notre discussion aujourd'hui, est-ce qu'on peut être amoureux de plusieurs personnes à la fois? Pour ceux qui répondent oui, en tout cas, le polyamour semble être un remède peut-être à la fidélité, à la jalousie. Et c'est le dossier de l'émission avec mes invités Magali Crozet-Callisto. Vous êtes sexologue clinicienne, psychologue spécialisée dans le traitement des addictions, écrivaine, et vous venez de publier Fragments d'un discours polyamoureux aux éditions Michalon. Et Philippe Bruneau, vous êtes psychiatre, sexologue, et vous nous accompagnez tous les mois pour cette thématique sur l'amour et la sexualité avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent. Magali Crozet-Callisto, vous écrivez dans l'avant-propos de votre livre que justement cet ouvrage est né d'une urgence, celle de répondre à une question de société. De plus en plus de couples aujourd'hui viennent consulter pour évoquer l'impasse dans laquelle ils se trouvent.
Oui, alors il se trouve que depuis quelques années, le thème du polyamour intègre les médias, les magazines, les radios, comme on vient de l'entendre avec l'extrait. Mmh. Et donc en cabinet de consultation notamment, certains couples viennent avec la question le questionnement de comment faire durer son couple, parce que aujourd'hui partons d'un constat, il y a 130 000 divorces par an en France. Mm-hmm. Le mariage traditionnel semble être dans une impasse. 55% des couples en ville aboutissent à une rupture et bien souvent vont réitérer la même histoire ensuite dans une succession donc d'unions. Mariage, divorce, remariage, divorce, et se sent dans une impasse. Donc là, la question de savoir est-ce que le polyamour pourrait me convenir finalement, est-ce qu'il pourrait représenter une nouvelle forme de couple, eh bien se pose.
Mais ils y pensent spontanément ou pas quand ils viennent consulter d'abord pour évoquer les problèmes de couple?
Pas forcément.
Vous qui leur suggérez ou pas?
Alors moi je ne suggère rien du tout, je suis à l'écoute, j'essaye en tout cas, voilà, mais simplement ils ont souvent été confrontés à des lectures. Ouais. À des sites internet. Là, en ce moment, il y a un documentaire aussi qui est sorti. Donc, c'est souvent suite à une discussion ou à une lecture qu'ils viennent avec cette question-là.
Ouais, et l'adultère, hein, qui demeure en 2017, vous le rappelez, l'une des premières causes de divorce. Exactement. En France. Hein. Philippe Bruneau, vous en croisez beaucoup, des couples qui souhaitent devenir polyamoureux dans vos consultations?
Peut-être pas autant que Magali Crozet-Calisto. Peut-être que on a aussi des recrutements différents, mais je rencontre très souvent cette question. C'est-à-dire, et depuis très longtemps, tous les gens qui suivent des individus ou des couples, il y a une usure du couple dans sa longueur. Je dis souvent qu'un couple formé jeune, aujourd'hui à 17-18 ans, peut vivre 70 ans ensemble.
C'est une bonne nouvelle déjà.
C'est une très bonne nouvelle, mais ça devient vertigineux quand on voit l'usure du couple, notamment dans l'excitation, le désir. Et depuis très longtemps, la question s'est posée avec, par exemple, des relations extérieures qui vont se nouer peut-être plus facilement aujourd'hui. Et la question qui va toujours être posée, moi je dirais plutôt dans les couples hétéros, plutôt par des hommes qui vont dire « Bon, je tiens aux deux attachements, je t'aime profondément et j'aimerais bien avoir une deuxième relation. » Et ils vont poser la question en disant « Est-ce que tu l'accepterais ?» La plupart du temps, dans l'imaginaire occidental du couple monogame, hein, ça va être un non et quelque chose compliqué et blessant. Dans le monde gay, ça existe beaucoup plus. C'est toujours posé, bien sûr, par des hommes, mais ça a été plus facilement...
Enfin, ça peut être des femmes homosexuelles.
Moi, je le connais mieux dans le monde homosexuel masculin, où c'est souvent accepté. Ça l'est peut-être dans le monde homosexuel féminin, je ne sais pas.
Magali Crozet-Calisto, les hommes se posent vraiment cette question, en tout cas, posent cette question à leur compagne?
Alors, ce qui est très intéressant, oui, comme le dit Philippe Bruneau, c'est une question qui va arriver d'un point de vue masculin assez fréquemment, puisque les hommes, dans la construction de l'imaginaire et des représentations de la sexualité, eh bien, l'adultère a une place importante dans notre société. Notre société judéo-chrétienne qui s'est construite un petit peu avec cet acte de transgression. Donc la transgression fait partie de beaucoup de couples, avec encore, comme on le voit souvent en cabinet de consultation, les douleurs que ça génère. On entend souvent les mots de victime, de trahison, de souffrance, hein, de la part des femmes quand il s'agit de leur mari.
Des deux côtés, ça se voit.
Mais alors aussi des deux côtés. Et notamment, ce qui se passe actuellement, c'est que les femmes parlent finalement très souvent du polyamour comme étant peut-être l'alternative à l'adultère subi. Donc elles sortiraient de leur statut de victime pour essayer d'autres paradigmes de la vie de couple.
Ça veut dire que les femmes sont plus à l'aise, au fond, avec cette nouvelle forme de conjugalité par rapport aux hommes?
Elles se sentent en tout cas plus libres à ce moment-là dans leur choix de vie sentimentale ou sexuelle. D'ailleurs, je tiens à insister, hein, le polyamour, souvent, on fait un amalgame avec la polygamie ou l'aventure d'un soir, le libertinage. Le polyamour, c'est une question d'amour, d'amour pluriel.
Et c'est assumé,
et c'est assumé
des deux côtés.
Des deux côtés. Et c'est dans le respect.
Quand les choses se passent bien,
de
évidemment.
La question, effectivement, ça vient à cette croisée de chemin que Mathieu vous évoquiez tout à l'heure. C'est peut-on aimer plusieurs personnes à la fois? Peut-on avoir plusieurs relations? Énormément de gens, c'est la problématique qu'on voit souvent, et on le voit autour de nous. C'est-à-dire que...
Sent bien qu'il y a quelque chose qui est possible, en tout cas qu'on peut aimer soi-même plusieurs personnes à la fois.
Alors, on peut aimer sur le plan affectif plusieurs personnes, mais lorsque cet amour est mêlé d'un amour charnel, est-ce qu'il est possible de maintenir plusieurs relations en même temps, et que ces relations ne soient pas, pour certaines, exclusivement physiques, ce qui est souvent le cas, c'est-à-dire un homme ou une femme sont dans un couple, homo, hétéro, peu importe, et ils peuvent avoir, c'est ce qu'on a appelé le couple ouvert, et même ce que Serge Chaumier avait appelé, pour à l'opposé du couple fusionnel, c'était le couple fissionnel, c'est-à-dire qu'on va tenter la fission. C'était il y a une vingtaine d'années. Après, il s'est rendu compte que c'était pas très possible, très facile. Mais c'est ça, est-ce que notre couple peut être ouvert à d'autres relations? J'ai pas de solution, j'ai pas de réponse.
C'est intéressant. Ce qui se passe aussi, c'est que dans la langue française, on n'a qu'un seul mot pour dire amour. Les Grecs en avaient trois. Eros, philia, agapé. Donc déjà, ils faisaient la différence entre le physique, l'excitation sexuelle, et puis l'affectif, la tendresse. Et dans le polyamour, justement, on va jouer avec ces nuances-là de l'amour. Et souvent, moi, je prends comme exemple, le polyamour est, on a tous appris à pouvoir aimer plusieurs amis ou plusieurs de ses enfants d'une manière différenciée. Eh bien, le polyamour, c'est pouvoir aimer plusieurs personnes aussi de manière différenciée, sans attendre qu'une seule personne vienne combler la conjugalité, l'érotisme, la parentalité.
Alors justement, un mot sur ce livre qui paraît chez Michalon, fragment d'un discours polyamoureux, Magali Crozet-Callisto. Alors c'est assez original comme ouvrage, puisque non seulement vous y faites part de votre réflexion, mais vous y livrez également votre expérience et votre témoignage.
Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que je pensais faire un essai sur donc ce thème que j'étudie déjà depuis pas mal d'années. L'essai me semblait être une approche trop froide pour parler d'un thème qui évoque les sentiments et qui évoque les relations humaines.
Donc vous avez eu envie de parler de vous aussi ?
Donc j'ai eu, non pas de moi, mais d'une expérience. D'une expérience que j'aurais pu choisir dans les cas cliniques que j'ai en cabinet de consultation, mais qui me semblait finalement peu propice pour essayer d'étayer. Alors c'est un parti pris.
Oui.
Et c'est aussi conscientisé, c'est un parti pris dans la ligne, on va dire, dans la veine du début du XXe siècle en ethnologie et en anthropologie, ce qu'on appelait l'observation participante.
Voilà. C'est pour ça que vous préférez parler d'expérience.
D'expérience, de récit d'expérience, qui aussi a pu me placer dans la tradition des sexologues anglo-saxons, comme Masters et Johnson ou le docteur Kinsey, qui s'inspiraient de leur propre vécu. Ensuite, ils regardaient ce qui se passait au niveau de leurs patients et pour en faire ensuite une théorie.
Philippe Renaud.
Je dirais que ce soit... Kinsey découvre sa propre homosexualité au cours de son travail, mais il ne le dit jamais. Ça, c'est dans son biotique. Masters et Johnson ne parlent jamais de leur histoire personnelle. Non, ce que je trouve intéressant dans le livre de Magali Crozet-Callisto, c'est... à la fois, c'est une réflexion scientifique, enfin en tant que sexologue, sur l'objet qu'est le polyamour. Et puis, ça mêle l'expérience personnelle, comme le font actuellement les scientifiques américains. Ça ne se fait pas en France. Et je pense par exemple à un très grand psychologue, Rogers, qui il y a une trentaine d'années écrit un livre qui s'appelle « Réinventer le couple ». Il commence le livre ainsi. « Ma femme et moi, quand on s'est mis ensemble ». Et c'est un vrai travail de psychologue et de typologie, mais il va mêler l'expérience personnelle. Et en cela, je trouve que ce livre est un roman un peu, mais il est vraiment témoignage et ça apporte quelque chose. Je crois que c'est fait de façon assez intelligente pour que on comprenne que c'est pas un parti pris.
Allez, on en parle dans un instant du polyamour, c'est le thème de notre dossier aujourd'hui.
Ne me change pas, ne me change pas. Laisse-moi chanter. On ne transforme pas l'acier en étain. L'acier en étain. Chimère courbée plus de 100 fois les chines, bâtie dans un bois qui ne plie pas. L'écorce du chêne tient, l'écorce du chêne tient, l'écorce du chêne tient. Puis soudain,
me change pas, ne me change pas. Laisse-moi chanter, laisse-moi chanter. On ne transforme pas, on ne transforme pas. L'acier en éteint, l'acier en éteint. Ne me change pas, ne me change pas. Laisse-moi rêver, laisse-moi rêver. On ne troque pas, on ne troque pas. L'acier pour le gain. Petit oiseau, petit oiseau, aurais-je plus mal?
Ne me change pas,
ne me change pas, ne me change pas, ne me change pas, ne me change pas,
ne me change pas,
ne me change pas,
ne me change pas,
ne me change pas,
ne me change pas,
ne me change pas,
ne me change pas,
ne me change pas,
ne me change pas,
ne me change pas,
ne me change pas,
ne me change pas.
Ne me change pas, Mesparo à l'instant.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et on parle de polyamour cet après-midi avec Philippe Bruneau et Magali Crozet-Calisto avec ce livre Fragment d'un discours polyamoureux paru chez Michalon. Alors beaucoup de témoignages des auditeurs qui arrivent, je voudrais qu'on les commente parce qu'ils disent beaucoup de choses sur cette pratique de l'amour à plusieurs. Yves nous dit « J'ai pratiqué le polyamour sans le savoir car le mot ne devait pas exister dans les années 70-80. Ma femme avait des amants, elle se confiait à moi, je trouvais ça tout à fait naturel. Elle partait quelques fois en vacances avec un amant et j'étais heureux de la savoir heureuse loin de moi et heureux de la retrouver à son retour. » On a envie de l'applaudir, Yves.
Oui, alors,
chapeau.
Ce qui se passe souvent, c'est que dans la philosophie des polyamoureux, on retrouve une forme d'altruisme et d'humanisme très, très prononcé,
poussé, hein,
ouais. Très poussé. Ouais. Oui, oui,
alors, c'est très vrai que dans le sentiment occidental de la fidélité très stricte, c'est quelque chose qui est difficile à imaginer. Et ce que raconte Comte Sponville dans Les Attachements, chez Spinoza, parce que j'ai pas tout lu Spinoza, c'est l'amour le plus désintéressé. Je suis heureux que tu sois heureux ou heureuse, voilà. Comme tu le désires.
Mais quelle chance, mais comment on y parvient? Alors c'est quoi la recette, ce détachement au fond?
C'est ça, c'est sortir de l'amour platonicien, de l'amour de l'éros, pour passer dans l'amour spinoziste, comme disait Philippe Bruneau.
Bah, si c'est aussi simple que ça.
Se réjouir avec, se réjouir ouais. Du bonheur de l'autre.
Se réjouir, ouais. Même si c'est avec quelqu'un d'autre. Oui. C'est ça la chose compliquée, oui. Que l'on accepte très mal parce qu'on a été construit autrement.
Tout à fait.
Là, il y a une construction. Ouais. C'est évident.
Alors Pierre nous dit, lui de son côté, j'ai beaucoup de mal avec ces soi-disant nouvelles manières d'aimer. Suis-je un attardé de l'attachement habituel, fait de fidélité et de partage? Ce ne serait pas plutôt les coureurs qui sont incapables de s'engager et d'aimer qui sont des polyamoureux?
Alors souvent on retrouve ça, on a l'impression que le polyamour est nouveau, parce qu'effectivement on met une définition aujourd'hui sur le terme, et le terme revient fréquemment, or il n'y a rien de nouveau dans l'histoire de l'humanité. La monogamie et le mono-amour n'est pas la règle au départ. Donc finalement, le polyamour va renouer avec d'autres formes de couples qui existaient, par exemple, comme dans la Rome antique, où le mariage venait simplement attester d'une union pour la filiation, pour l'héritage, éviter les bâtards, comme on disait à l'époque. Et puis, les personnes pouvaient aimer d'une autre manière, en dehors du couple. Ouais. Aujourd'hui, avec le mariage d'amour au XXe siècle, les choses ont changé et on a l'impression que le polyamour est nouveau.
Oui, mais dans la Rome antique, bien sûr qu'il pouvait y avoir d'abord, et en Grèce vous évoquiez les trois termes de l'amour, mais parce que il y avait l'amour avec donc c'était le mariage obligé avec l'épouse, et puis il y avait l'amour qu'on pouvait avoir avec une courtisane ou avec une prostituée, mais c'était toujours pour les hommes. C'est-à-dire, c'était pas du tout symétrique. Aucune femme n'aurait cette liberté.
Voilà,
donc aujourd'hui, je me demande, on peut se poser la question aussi, est-ce que le fait de nommer minorités. Et tant mieux, c'est comme pour les minorités, toute minorité, ça permet de déculpabiliser. Et notamment peut-être déculpabiliser des comportements. Tiens, je me croyais adultérin et libertin, et dans le fond, je suis polyamoureux et je me sens moins coupable.
Oui, c'est ça, oui. Peut-être. Alors, pourquoi pas? On va écouter un témoignage qui va vous intéresser, celui de Colette Audry, qui parle de sa rencontre avec Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. C'était au micro de Frédéric Mitterrand en 88.
La correspondance est absolue. Vraiment, ce que j'ai connu d'eux depuis le premier jour et ce que j'ai lu, chacun parlant de l'autre, ça se correspondait point par point. La première fois où je les ai vus, Simone de Beauvoir m'avait dit, parce que nous nous connaissions depuis peut-être un mois au lycée de Rouen, elle m'avait dit, il faut absolument que vous connaissiez mon camarade Sartre. Elle m'appelait mon camarade, il était toujours extrêmement discret sur leur rapport. Eh bien, je peux dire que ce jour-là, les rapports que j'ai vus entre eux sont ceux que j'ai trouvés ensuite dans leurs œuvres. C'est-à-dire une transparence de l'un à l'autre, une transparence vis-à-vis de ceux avec qui ils parlaient, et le sentiment que cette transparence était le milieu essentiel de leur vie. C'était là-dessus que leur vie s'était faite. D'ailleurs, on le voit aussi dans les lettres... au Castor, lorsque Sartre lui dit en mandat, oui, de temps en temps, vous devez avoir peur que je ne vous mente. Mais il lui dit, si je vous mentais, je me perdrais moi-même, je ne m'y reconnaîtrais plus.
Alors voilà, en parlant de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, une réaction à tous les deux, Philippe Brenneau, sur la transparence. Était-il aussi transparent que cela?
C'est-à-dire qu'avec le temps, on connaît un petit peu mieux la vie de Sartre et de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir. Mais par exemple, tout le monde a été un petit peu surpris, et notamment les féministes, lorsque on a découvert la correspondance avec Nelson Algren, son grand amour transatlantique. Et c'est vrai qu'il n'avait pas besoin de parler d'une relation qui était importante pour chacun. Mmh. Jean-Paul Sartre avait des amours pluriels, plutôt des jeunes étudiantes, ça a été souvent le cas, et je crois que j'appellerais ça plutôt un couple ouvert, qui était très en avance sur leur temps, c'est-à-dire qu'ils étaient une réunion de deux intellectuels, ils avaient une fonction du couple, c'est dominer un territoire, et la deuxième fonction, c'est de se donner la liberté que chacun puisse vivre ce qu'il voulait.
Magali Crozet-Calisto.
Oui, je partage tout à fait ce point de vue. Ce qui est intéressant chez Sartre et Beauvoir, c'est cette notion aussi qu'ils ont pu définir d'amour nécessaire et d'amour contingente. Mmh. Donc l'amour nécessaire correspondrait à ce qu'on trouve aujourd'hui chez les polyamoureux d'amour primordial. C'est-à-dire, souvent, on voit dans les cas de patients, en tout cas moi que je peux recevoir, qu'il y a au départ un couple primordial, une union officielle,
ouais.
Et puis ensuite des satellites, des amours secondaires, si on veut hiérarchiser, ou en tout cas des planètes, chacun peut inventer son vocabulaire, et ça, Sartre et Beauvoir l'ont plus ou moins déjà dit dans
voilà.
leur...
On entendra un témoignage tout d'accord. à l'heure qui justement illustre parfaitement vos propos. Il y a ce message d'Isabelle qui nous dit « Le polyamour, c'est accepter de laisser naître l'amour alors qu'on est déjà engagé par ailleurs. C'est ne pas étouffer toutes les petites étincelles que la plupart refusent de laisser pousser. C'est accepter d'être entier avec plusieurs. C'est beaucoup donner et énormément recevoir. C'est fatigant, souvent mal compris et donc parfois difficile à assumer publiquement, mais c'est merveilleux. C'est ce que je suis depuis toujours, une femme qui s'autorise à aimer dès que cela arrive. »
Oui, alors voilà un témoignage qui en dit beaucoup sur l'approche des polyamoureux. Souvent, le problème du couple traditionnel est que le couple, au fil du temps, se meut en prison. Et les frustrations suscitées par ce couple prison font que l'adultère arrive, et puis la trahison, etc. Lacan avait une très belle formule, il disait, il parlait de la parole vraie. Être polyamoureux, souvent, on retrouve ça, c'est être dans la parole vraie, c'est-à-dire, je te dis la vérité, je ne te mens pas parce que je t'aime.
La difficulté, c'est tout de même d'avoir un partenaire qui accepte cette ouverture. Et comme la plupart des gens en Occident sont construits sur la fidélité, c'est très compliqué.
C'est très compliqué.
Est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un qui a envie de vivre le polyamour et qui se trouve devant quelqu'un qui ne peut pas le vivre?
Oui.
C'est compliqué. Les hommes, plus facilement, lèvent les interdits.
Allez, on se retrouve dans un instant. Il y a beaucoup de messages pour vous, je vous les transmets dans quelques minutes.
Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me.
coming Tuesday I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go.
Je vis les amants pluriels d'une certaine façon, c'est-à-dire j'ai une relation principale et d'autres relations, je suis moins impliqué et moins engagé. Et donc là, j'habite avec Gabrielle, qui est donc mon amoureuse principale. Donc on a un appartement qui est assez grand pour qu'on a pu installer un petit rideau dans le salon pour faire deux chambres.
Donc il y a certains soirs ici où vous allez être seul et où dans la chambre qui est la sienne, votre amoureuse principale va avoir...
Ah, je pourrais pas, je suis trop jaloux pour ça, je pourrais pas. Donc ça veut dire que si elle a un amoureux ici, ça veut dire que moi je suis ailleurs, en voyage, en vacances...
Voilà, extrait de grand format qui était sorti en 2011 sur France 2 autour du polyamour, notre dossier cet après-midi. Ben, je pensais, moi, que ça réglait tous les problèmes de jalousie, Philippe Bruno. Apparemment pas, hein, dans ce qu'on entend là.
C'est compliqué. Même j'ai deux ou trois cas de, je pense par exemple, d'hommes vivant avec deux femmes depuis très longtemps. Ils ne se disent pas polyamoureux. Tout le monde les dirait polygames. C'est très compliqué parce que je pense, tiens, j'en ai pas parlé sous cet angle-là, je suis persuadé qu'ils se diraient polyamoureux. Parce qu'il y a vraiment cette relation-là.
Et la jalousie, alors, là-dedans ?
La jalousie, alors d'abord la jalousie, moi je crois que c'est quelque chose de fondamental dans l'espèce humaine. C'est quelque chose qui est lié au sentiment amoureux, qui n'existe pas en dehors de l'espèce humaine, et souvent à l'exclusivité du sentiment amoureux. Et on peut se demander quelle place on peut donner à la relation charnelle. Dans la plupart des traditions, la chair et l'amour, enfin, le sentiment et le charnel sont séparés. Parce qu'ils s'étaient rendu compte que c'était très difficile. Et aujourd'hui, on voudrait les faire coexister et coexister à plusieurs. Et ça devient, vous le dites quelquefois, peut-être plus compliqué.
Magali Crozet-Calisto, oui. La pratique du polyamour, ça exige une bonne gestion de la jalousie, hein, justement.
Alors,
quand même, hein.
Effectivement, bon, on va pas se mentir, tout le monde, tout être humain a fait l'expérience de la jalousie au moins une fois dans sa vie. Et alors dans le polyamour, effectivement, pour pouvoir être dans le respect de l'autre et puis accepter qu'il puisse aimer d'autres personnes sans que ça n'enlève rien à soi, à un moment donné, il faut en passer par cet apprentissage de la gestion de la jalousie. Alors souvent, en cabinet de consultation, on en passe par l'apprentissage de la cohérence cardiaque, des outils très très concrets, une technique de respiration. ou alors de la thérapie cognitivo-comportementale pour pouvoir gérer ses émotions. On parlait de tsunami tout à l'heure. Ben voilà, quand les émotions provoquent un tsunami intérieur, comment faire pour ne pouvoir tenir ça?
Non, mais ça marche vraiment, ça, d'apprendre à respirer pour gérer la jalousie.
Essayez.
Non, mais ça peut marcher, mais il faut quand même que la personne le veuille, parce que tout de même, je suis jaloux ou jalouse des relations que mon partenaire a avec quelqu'un d'autre. Et alors, il faut déjà que j'accepte, je veux vivre cette relation, et genre que je vais essayer de dépasser les sentiments que je ressens, ça devient très compliqué,
oui.
Mais effectivement, ça se pose.
Lalo nous dit, en laissant l'autre libre de vivre ce qu'il veut, on se débarrasse de l'horreur de la jalousie qui peut nous gâcher la vie, aussi gâcher celle de l'autre. Alors, ça pourrait être aussi une solution pour se débarrasser de la jalousie?
Alors, ça peut être une solution. Ce qu'on voit souvent, c'est que les personnes qui sont dans le polyamour sont souvent des personnes sécures. Au sens où John Bowlby le présentait dans les années 60.
Avec les théories de l'attachement.
La théorie de l'attachement, exactement. Oui. Donc souvent, on voit que chez les polyamoureux, il y a une grande maturité au niveau de la réflexion, un travail intérieur au long cours, par rapport à cette sécurisation de soi et cette conscience que, eh bien, il faut pouvoir trouver les ressources à l'intérieur de soi et ne pas attendre tout de l'autre.
Ouais. Alors c'est vrai qu'au fil des micro-couples que l'on fait, des tranches de vie, il y a beaucoup de gens qui ont acquis aujourd'hui une maturité, une certaine maturité, qui se rendent compte que certaines choses sont pas possibles. Et dans un nouveau couple, ils veulent bien envisager les choses de façon différente.
Oui, c'est ça, après, avec l'expérience. Alors, vous dites bien à quel point il faut poser des règles aussi, dès le départ. Dans le polyamour, ça, il faut qu'il y ait des règles très explicites.
Ça se dit, puisque le fait d'assumer fait partie du béaba du polyamour, sinon ça crée des incompréhensions. Des confusions, il y a mal donne et le couple se sépare en général très vite. Donc, l'une des premières règles, c'est le fait de l'expliciter tout de suite. Une des règles encore, c'est de pouvoir construire un mode d'être réciproque, équitable et dans le respect, que les deux personnes puissent y retrouver.
Mais ça doit être une gestion incroyable quand même, le polyamour, non? Une gestion du temps, de la disponibilité.
Alors, comme on parle d'amour pluriel, finalement...
la spontanéité là-dedans.
Voilà, les vies sont plurielles aussi. C'est une réalité augmentée, finalement, le polyamour, et ça demande une gestion particulièrement précise.
Philippe.
Alors, vraiment, le point qui était abordé avant et me semble très important, c'est nouveau, et j'ai entendu pas mal de gens en parler, le fait de se dire polyamoureux, très curieusement, parce qu'on est dans une société où on réfléchit à tout un tas de possibles, eh bien, le fait de se dire polyamoureux, ou de dire qu'on l'est, élève beaucoup moins de résistance que j'aurais imaginé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les choses sont très claires. Je suis polyamoureux et tu m'acceptes comme ça ou pas.
Ah ben justement, Marjorie nous dit, je pense qu'il n'y a pas de formule à privilégier dans une relation amoureuse. L'important est que les partenaires soient d'accord.
Hein. Et voilà.
Personnellement, moi qui déteste partager, je suis bien content d'avoir trouvé un amoureux qui ne se donne qu'à moi et nous nous en portons plutôt bien depuis 25 ans. Bon, voilà un témoignage.
D'ailleurs, à ce propos, le polyamour n'est pas la panacée pour la vie de couple. C'est une des alternatives, comme le disait Philippe Bruno dans l'un de ses livres. Il y a une trentaine de manières de vivre son couple. Donc le polyamour n'est absolument pas fait pour tout le monde.
Ouais. Et puis, il y a le polyamour, pardonnez-moi de vous couper, il y a le polyamour en circuit fermé, c'est-à-dire des gens qui vivent en troupe, hein, on pourrait dire, parfois trois, et puis un polyamour plus comme vous l'écrivez, qui est vraiment fait de relations extérieures justement au foyer.
Voilà, oui, donc soit le polyamour va se tourner vers l'extérieur, comme on le disait tout à l'heure, soit en circuit fermé, donc c'est-à-dire en fonction des orientations sexuelles aussi différentes des personnes. Les personnes vont vivre sous le même toit en général ou pas, ça dépend aussi de chaque typologie, c'est au cas par cas.
Ouais. Christophe nous dit, j'étais amoureux de deux femmes en même temps, ma femme légitime et une grande amie à moi, résultat, je n'en ai plus aucune, je vis pardon de rire, Christophe, mais c'est vrai qu'évidemment, c'est ce qui peut aussi arriver hein,
dans ces
formes très compliquées à gérer.
Tout à fait. La vie humaine est faite de surprises et parfois pas que de bonnes.
Il me semble que cette façon d'aimer ne concerne pas les milieux populaires ou modestes, dit Pauline, mais les plus aisés. Pourquoi, Philippe Bruno?
Ça, je ne saurais pas le dire. Non, c'est pas forcément... Peut-être.
Il y a des études qui ont été menées sur alors, les catégories sociales concernées par le polyamour.
Moi, je suis très curieuse et j'aimerais beaucoup de voir dans ces mois, ces années à venir, un observatoire se créer par rapport au
polyamour.
L'observatoire
du couple pourrait faire quelque chose.
Il y en a déjà, bien sûr, il y en a déjà. Et beaucoup de choses ont été faites. Philippe Bruno le sait bien et a participé, a contribué. Mais voilà, pour le polyamour, on manque encore de statistiques.
Moi, ce que je dirais simplement, et je crois que c'est important de le situer. Alors, le couple a évolué. Il y a beaucoup de formes. Aujourd'hui, on cherche la forme du couple. Je crois que c'est à chacun de trouver une forme de son couple. Le polyamour peut en faire partie. Ouais. Il y a de nombreuses formes de couple. Il faut qu'elles soient adaptées.
François, sur la jalousie, il nous dit la jalousie, c'est la peur de perdre l'autre. Quand on échange, il n'y a plus cette peur de perdre l'autre, mais ce plaisir de partager nos expériences. Bon, c'est une façon de voir les choses.
Le polyamour, c'est une joie d'amour avant tout.
Il nous reste 45 secondes. Ça marche ou pas le polyamour, Philippe Bruno ? J'aimerais bien avoir une réponse à cette question.
D'abord, c'est
quand même
à Magali qu'il faut peut-être le demander. Mais moi, je crois que c'est une forme exigeante, intéressante pour certains. Mmh. Et puis, je crois qu'il faut être très mature, on vient de le dire. Il faut être mature dans sa relation à l'autre. Et par contre, ça marche, c'est vous qui pouvez le dire.
Magali Crozet-Calisto.
Mature et aussi, les polyamoureux sont très humbles. Savoir qu'il n'y a pas de panacée, comme je le disais tout à l'heure. Et oui, c'est possible, mais en même temps, ça peut être un temps dans une vie.
Allez, on peut s'en inspirer peut-être en lisant fragments d'un discours polyamoureux que vous publiez, Magali Crozet-Calisto, chez Michelon. Et puis Philippe Bruno, on vous retrouve le mois prochain pour une autre thématique, amour et sexe.
Bien sûr, avec plaisir.
À bientôt.
La science grand format, en partenariat avec France 5.
Et comme tous les mercredis 20h50, le documentaire de France 5. Ce soir, vous pourrez aller aux sources d'Encore, un film réalisé par Olivier Horn et que vous avez produit, Stéphane Millière, pour Gédéon Programme. Bonjour.
Oui, bonjour Mathieu.
Alors Stéphane Millière, il s'agit donc d'une grande aventure archéologique devenue possible grâce à la technologie. C'est ce qu'on va voir ce soir.
Oui, tout à fait. C'est l'histoire d'un jeune archéologue qui s'appelle Jean-Baptiste Chevance, qui a dévoué ses 15 dernières années de sa vie à des recherches sur un plateau qui s'appelle le Phnom Kulen, au-dessus de la plaine d'Angkor. La plaine d'Angkor, on la connaît, c'est là où il y a tous les temples qu'on peut visiter. Et là, on est dans les montagnes au-dessus, il y a une forêt très dense, et cet archéologue cherche depuis des années. Il a trouvé des vestiges de temples disséminés un peu partout. Il avait le sentiment qu'il y avait quelque chose d'assez extraordinaire qui se passait là, mais c'était difficile d'avoir une idée précise. Et puis, il y a un peu plus de 2 ans, il y a une technologie qui est arrivée, le LIDAR, et qui a tout changé.
Alors justement, Stéphane Millière, on va écouter un extrait de ce documentaire avec Stéphane De Greff, donc qui est cartographe, et l'archéologue Jean-Baptiste Chevance, le protagoniste principal du film.
Jimmy me demandait est-ce que je peux l'aider à analyser les données LIDAR, parce que bon, c'est des fichiers, on ne savait pas les ouvrir, on ne savait pas quel programme utiliser, on ne savait pas comment tout mettre en carte en fait. J'ai réussi à avoir des images, je voyais des temples qu'on connaissait déjà, il y avait des trucs un peu plus gros, il y avait des machins qui faisaient des kilomètres de long. Je me suis dit bon, il y a peut-être des erreurs dans les données. J'ai vérifié, j'ai tourné dans tous les sens et puis j'ai appelé JB, j'ai dit écoute JB, je crois qu'on a quelque chose d'énorme, je pense qu'on a... Il y a des grands lacs, il y a des zones inconnues, il y a des trucs gigantesques, je pense qu'on a une ville.
Grâce à cette technologie, on a toutes les grandes avenues qui relient ces sites entre eux, d'autres sites inédits, d'autres temples inédits. Ça, c'est les choses qu'on a vues avec le LIDAR.
Voilà, Stéphane Millière. Là, on entendait vraiment un des moments clés du film où les deux scientifiques évoquent, on peut dire, la découverte de leur vie.
Voilà, ils viennent d'avoir les résultats de ce LIDAR, donc cette technologie qui a permis d'enregistrer ce qu'il y avait sous le couvert végétal grâce à un laser, et ils s'aperçoivent que c'est une ville entière, 20 kilomètres carrés, quelque chose de gigantesque que tout le monde cherchait. C'est la ville mythique du roi Jayavarman qui a unifié le Cambodge et qui précède les grands temples qu'on peut voir plus bas. Donc c'est à peu près une vingtaine d'années, peut-être plus, de fouilles de terrain qui vont pouvoir commencer. C'est une découverte colossale.
Voilà, on va donc découvrir ces sites ensevelis d'Angkor au Cambodge avec la science grand format. France 5, ce soir 20h50, et vous produisez ce film avec Gédéon Programme, Stéphane Millière. Merci beaucoup à vous. À bientôt.
Merci, au revoir Mathieu.
Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour.
Affaires sensibles dans quelques minutes, le thème, Fabrice, aujourd'hui.
La vie et l'œuvre de Nelson Mandela, et nous en parlerons avec notre invité Jean Guilloineau, historien spécialiste de la société sud-africaine.
À tout à l'heure, merci.